Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et où le lundi de Pâques n'a aucun effet sur notre professionnalisme puisque nous bravons eux et lapins en chocolat, crise des enfants qui ne sont pas à l'école mais à la maison pour vous proposer un épisode. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir Jeanne Rousseau, présidente de Spiders, un studio parisien, un studio de développement parisien qui a, j'ai cru comprendre, abandonner les enfants dans le jardin pour venir participer à l'émission, c'est ça?
C'est exactement ça.
Bon, je te remercie de ton manque de rigueur parentale, peut-être, qui est comparable à la mienne. Jeanne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas?
Bien sûr, j'ai commencé moi à travailler dans le jeu vidéo il y a un peu plus de 20 ans maintenant, puisque c'était fin 98 que j'ai rejoint l'industrie à l'époque dans une société qui développait des jeux sur Game Boy, donc c'était vraiment il y a longtemps.
Ah oui, c'est d'actualité en plus, la Game Boy a 30 ans, je crois hier ou quelque chose comme ça. Donc,
Là c'était un peu la fin de la Game Boy, le début de la Game Boy Color et, puis par la suite de la Game Boy Advance.
Évidemment.
Donc moi c'est là-dessus que j'ai commencé, que j'ai fait mes armes, en tant que d'abord graphiste, puis un peu game designer, puis chef de projet, enfin assez vite chef de projet. Et je suis passée comme ça, de type de machine, mais aussi dans différentes sociétés. J'ai travaillé un peu chez Gameloft aussi, puis chez Monte Cristo sur du jeu PC. Et donc il y a un peu plus de 10 ans, avec certains de mes collègues de chez Monte Cristo, avec qui on avait développé Silverfall, qui était un hack and slash sur PC, on a décidé de créer Spiders, qui donc est effectivement un studio parisien, même si il y a des spin-off un petit peu partout, y compris en Bretagne, là où je suis. on travaille à distance. Et donc, c'est une société qui s'est spécialisée dans le développement de RPG sur console et sur PC. Donc, depuis 10 ans, on est en train de travailler sur notre 6e jeu à l'heure actuelle. On a sorti un certain nombre de jeux différents sur d'abord PS3, 360 et PC, et plus récemment, évidemment, sur PS4, One. Et on va faire le mouvement vers la PS5, bien sûr, ou Dieu sait comment elle s'appellera. Et, et idem pour la prochaine console de Microsoft.
Super. Bah écoute, tu nous en diras un petit peu plus sur les jeux justement que vous avez dans les fourneaux en fin d'émission. Mais là, tu m'offres une transition parfaitement trouvée puisque notre premier sujet sera les premiers détails sur la prochaine PlayStation. On parlera aussi de Jedi Fallen Order, le jeu Star Wars qui a été présenté il y a une petite semaine. On va parler un petit peu de Sekiro et de la difficulté dans les jeux qui a créé des controverses ces derniers jours, ces dernières semaines. Et puis tout un tas de petites news en plus. Mais donc, commençons par PlayStation 5 ou prochaine PlayStation en tout cas. C'est intéressant, on a eu une interview de Mark Cerny, l'architecte de la console de la PlayStation 4 qui est aussi en charge du matériel de la PlayStation 5. Une interview chez Wired qui est arrivée à un moment, je dirais, un petit peu étrange. On est dans un creux d'informations sur ces sujets avant le 3, après la vague de la fin de l'année dernière. Et il a parlé de tout ce qui est attendu sur cette prochaine console PlayStation, tout ce qui est matériel. Il n'a pas du tout parlé de tout ce qui pourrait être intéressant, j'ai presque envie de dire.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire des services, le cloud gaming, le prochain PlayStation VR, etc. Il en a évoqué un tout petit peu, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je te propose que je fasse un résumé rapide de tout ce qu'ils ont dit et puis on peut dire ce qu'on en pense, si ça te va.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, d'abord, les trucs attendus. Processeur de nouvelle génération basé sur l'architecture Ryzen et Navi pour le coprocesseur graphique. Il y aura du ray tracing comme on pouvait s'y attendre. La technologie a été introduite par Nvidia l'année dernière. Elle sera sur, on l'imagine, les deux consoles de nouvelle génération, donc de Sony et de Microsoft. Il y a des capacités 3D audio beaucoup plus performantes qui, il semble dire, changeraient de ce qu'on connaît aujourd'hui en audio studio 3D. Bon, ça, j'attends d'entendre, j'allais dire de voir pour le croire, mais j'attends d'entendre. Et puis, il a fait un gros pavé sur le SSD, donc la mémoire de stockage de masse, qui est beaucoup plus rapide même que les SSD actuels. Il donne un exemple de temps de chargement avec Spider-Man, qui passe pour un temps de chargement classique de 15 à 17 secondes à moins d'une seconde. Et il dit, c'est tellement rapide, tellement même plus rapide que ceux d'aujourd'hui, que ça peut créer de nouvelles opportunités de design. Ce sur quoi, moi, j'ai un petit point d'interrogation quand même. On pourrait en parler plus en détail, mais ça me semble être un petit peu plus du marketing que du concret. Peut-être que tu nous diras le contraire, toi qui connais plus le développement. La console ne sera pas disponible cette année, ça on s'y attendait, ça sera en 2020 a priori. Et puis des choses un petit peu plus intéressantes peut-être, il y aura évidemment toujours des médias physiques, donc on pourra aller acheter ses galettes à la boutique du coin, et le support de la 8K. Et dans ces deux cas, je crois que c'est des questions qui sont, enfin des éléments qui sont intéressants à entendre, parce que n'oubliez pas que les générations durent, on va dire, une dizaine d'années. Avec une sortie en 2020, on se retrouve avec une fin de vie en 2030, et la question des médias physiques se posera peut-être différemment en 2030, ça fait quand même un moment pour l'atteindre. Et pareil, le support de la 8K, évidemment qu'aujourd'hui, ça n'a aucune raison d'être, mais c'est du future-proofing. Aujourd'hui, on les utilisera en HD ou en 4K. Bon, en 2030, peut-être que des personnes auront des télévisions 8K, à savoir si ça servira à quelque chose, ça c'est un autre débat,
oui.
mais il y en aura peut-être. Et puis le dernier détail qui me paraît intéressant, c'est la rétrocompatibilité PlayStation 4, qui est attendue parce qu'on a des architectures qui sont comparables à des architectures PC et que la rétrocompatibilité est beaucoup plus facile à implémenter. Donc de même que pour la Xbox One, on aura une rétrocompatibilité avec la PlayStation 4 sur la console de prochaine génération, mais ça veut dire qu'il y a aussi une rétrocompatibilité avec le PlayStation VR, et qui là c'est le point qui m'a le plus intéressé. Mais avant de continuer dans mon monologue, sur tous ces éléments, Jeanne, toi, est-ce qu'il y a un truc qui t'a plus particulièrement frappé?
Je dois avouer que ça n'a pas été une grande surprise. Alors c'est vrai que le fait qu'ils décident de faire cette annonce-là à ce moment-là, bon, on sait que depuis quelques années maintenant, le 3 est un petit peu délaissé par les gros annonceurs, parce qu'en fait il y avait une surcharge d'informations à ce moment-là et qu'il y avait du coup, on va dire, une forme de délayage de chaque du côté percutant de chaque information. Donc je pense que c'est un peu ce qui justifie le fait qu'il l'ait fait en dehors des grands événements. D'ailleurs,
non,
on voit l'impact.
Sony n'y sera pas le 3,
oui, oui.
Juste.
Mais ça fait plusieurs années, effectivement, que cet événement-là est au fur et à mesure délaissé de plus en plus par les constructeurs, mais aussi certains grands éditeurs. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, effectivement, bon, c'est assez amusant que ça apparaisse de cette manière-là, par une interview avec Wired, qui n'était pas exactement ce qu'on aurait pu attendre comme type d'annonce officielle.
Ouais.
Maintenant, en termes, on va dire, d'annonces d'architecture, on n'est pas non plus extrêmement surpris, honnêtement. J'espérais effectivement avoir plus d'informations sur la partie cloud, parce que bon, Sony a intégré quand même depuis très longtemps des studios qu'il a rachetés pour développer ces aspects-là. Ils ont fait beaucoup de recherches dans ce domaine, donc je m'attendais à ce qu'ils communiquent un petit peu plus là-dessus. Maintenant, ça viendra peut-être dans un second temps, c'est pas impossible.
Je ne serais pas surpris qu'on ait une annonce plus substantielle sur ces sujets, d'ailleurs peut-être plus proche de l'E3 ou juste
c'est
après.
C'est tout à fait possible, parce que c'est vrai que là, ça faisait un petit peu quand même franc-tireur comme annonce,
ouais.
Donc je serais pas surprise qu'ils donnent des informations un peu plus officielles et de manière, et du coup peut-être effectivement plus approfondies dans certains domaines. Sur la rétrocompatibilité, c'est pas une surprise, parce que c'est quelque chose qui leur avait été quand même pas mal reproché sur le passage de la PS3 à la PS4. La PS3 avait une architecture tellement spécifique et tellement complexe que bon, nous on n'a pas été non plus du tout surpris en tant que développeurs qu'ils abandonnent complètement ce fonctionnement-là, parce que ça leur avait coûté quand même relativement cher. Ils avaient perdu, par rapport au grand succès de la PS2, ils avaient quand même perdu beaucoup d'engouement, perdu beaucoup de développeurs aussi, qui s'étaient plutôt repliés à l'époque sur la console de Microsoft, qui était plus simple d'accès, et la PS4 leur a permis, en revenant à une architecture plus traditionnelle et finalement du coup plus proche du PC, de regagner vraiment leur succès, le succès qu'ils avaient connu précédemment, et même bien plus, puisqu'évidemment le marché va croissant. Donc je ne suis pas du tout surprise qu'ils continuent effectivement à vouloir finalement maintenir un suivi d'une console à l'autre, Et évidemment, après les annonces 8K, etc., bon, c'est une manière effectivement d'assurer que leur console sera toujours valable dans alors, une dizaine d'années, c'est peut-être beaucoup, parce qu'honnêtement, les changements technologiques vont tellement vite qu'il est fort possible que ce soit plutôt du 8 ans qu'il faille viser. Hein, mais,
bon, mais disons bon, que quand je dis 10 ans, ça veut dire la fin de la génération, c'est quand ils arrêtent de les construire, qu'ils voilà. développent plus de jeux pour. C'est-à-dire que j'imagine, je ne suis pas certain, mais je ne suis même pas sûr qu'ils aient arrêté de construire des PlayStation 3 aujourd'hui. Ils se vendent dans d'autres marchés, et beaucoup moins cher, mais c'est ce fin de vie dont je parle. Donc peut-être oui, peut-être que 2030, ça fait beaucoup, mais on n'est pas très très loin, quoi.
Et puis effectivement, si le cloud gaming s'impose, comme l'espère en tout cas de manière assez évidente Google et consorts, bon, il y a des chances pour que d'ici là, les systèmes de console aient eux-mêmes dû évoluer dû à cette technologie. Donc, après, sur le SSD, c'est un point qui est plutôt intéressant pour nous. Nous, au sens développeur, pas uniquement évidemment Spiders, dans le sens où on rencontre quand même toujours un peu des difficultés à streamer des environnements complexes. C'est-à-dire que si on veut avoir vraiment un streaming qui soit parfaitement fluide sur console, on est obligé parfois de sacrifier un petit peu la qualité de certains visuels ou de certaines textures. Disons que c'est une mécanique un petit peu complexe.
En raison de la taille des assets, de la taille des éléments que vous devez charger. J'explique tout petit peu pour les auditeurs. Les auditeurs qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire par streaming dans ce cas-là, c'est dans un monde où il n'y a pas de temps de chargement, il faut prendre les éléments artistiques du disque dur et les mettre dans la mémoire vive. Et,
à les charger à la volée, c'est-à-dire que plus vous avancez, vous déplacez dans le monde, plus les nouveaux éléments vont devoir être chargés au fur et à mesure de votre progression.
Et il y a une contrainte qui est la vitesse à laquelle on peut les sortir du disque dur et les amener dans la mémoire, qui fait que, donc ce que tu me dis, c'est exactement ce que disait Marc Cerny, parfois on doit les rendre un petit peu moins beaux pour qu'ils soient un petit peu moins volumineux en mémoire et qui puisse passer dans le tuyau, quoi.
Exactement. Ah oui, d'accord. Et en sachant que on stream, alors effectivement des éléments visuels, ça c'est la première chose auquel on pense quand on parle de streaming, mais on stream aussi beaucoup d'autres éléments. Ça peut être des animations, ça peut être les squelettes de créatures ou de personnages qui vont apparaître à l'écran quand on continue de se déplacer. Et tout ça, effectivement, pour l'instant, est un peu limité par les temps d'accès au disque dur et tout particulièrement sur console. C'est quelque chose que sur PC on arrive assez bien, sur des PC en tout cas assez puissants, à contourner, mais sur console il y avait encore un petit peu une limitation à ce niveau là que du coup ces nouveaux SSD devraient pouvoir effectivement permettre de contourner, donc d'avoir des choses plus fluides, plus belles, plus de variété aussi, surtout parce qu'en fait à partir du moment où on a chargé un élément, on va dire un arbre par exemple pour prendre un exemple simple, s'il y a 10 fois le même arbre, c'est pas grave, on peut l'afficher sans problème puisqu'il est déjà dans la mémoire. Par contre, si on veut avoir 10 arbres différents, vraiment complètement différents, il va falloir à chaque fois les mettre dans la mémoire avant de pouvoir les afficher. Et donc, évidemment, ça impliquait certains effets qu'on avait parfois quand on se promenait dans des environnements où on avait l'impression quand même qu'il y avait des choses qui étaient un peu dupliquées, un petit peu clonées. Ce genre de choses devraient pouvoir être contournées grâce à ces systèmes qui permettent de charger beaucoup plus vite en mémoire des éléments et donc d'avoir des environnements qui seront potentiellement évidemment plus réalistes puisque plus variés et pas seulement plus jolis, mais vraiment amener une variété que jusqu'ici on avait un petit peu du mal à atteindre.
C'est hyper intéressant. Moi, j'étais convaincu que c'était un petit peu, comme je le disais, un petit peu du marketing, mais et c'est exactement ce que disait Cerny dans l'interview. Il disait on a été parlé aux développeurs et on leur a demandé ce qu'ils voulaient. Bon, j'imagine que dans ce cas-là, c'est une évolution attendue là aussi de la technologie, mais c'est vraiment une demande des développeurs d'après ce que tu dis et c'est intéressant.
En tout cas, c'est un des points sur lequel nous on espère toujours avoir des améliorations parce que c'est vrai que sur des développements qu'on peut avoir à l'heure actuelle, on sait que les versions consoles seront moins jolies, moins variées que les versions PC.
Pour ces raisons.
Entre autres, pour ces raisons-là, oui.
D'accord. Ouais. Donc, ok, super intéressant, merci. Moi, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est la rétrocompatibilité du PlayStation VR, qui n'est pas juste un accessoire qu'on va pouvoir utiliser sur la prochaine console, mais qui va être en fait améliorée avec la prochaine console, puisque finalement, le PlayStation VR, c'est des écrans dont la résolution reste quand même relativement faible, mais il n'empêche que ce qu'on va afficher sur ces écrans avec résolution plus faible sera plus beau, puisque ça sera affiché et calculé par la console de nouvelle génération. Donc, c'est un petit peu... J'imagine qu'à terme... quand ils présenteront leur service de cloud gaming amélioré, puisqu'ils ont évidemment aujourd'hui le PlayStation Now, mais on ne doute pas que ça fera partie de leur prochaine offre. Peut-être qu'il y aura aussi un PlayStation VR 2. Là, ça ne sera pas inclus dans le cloud gaming, j'imagine, parce que la latence est trop problématique. Mais au-delà de ces nouvelles présentations, le PlayStation VR d'aujourd'hui pourra être utilisé sur la prochaine console et... l'image qu'elle affichera, qu'il affichera sera plus belle. Et donc, ça veut dire que le PlayStation VR est du coup un achat plus intéressant à faire aujourd'hui qu'avant, parce qu'on sait qu'on va pouvoir le garder pour la prochaine console. Et comme il y a vraiment une librairie qui commence à être assez correcte, et le prix est aussi assez correct, c'est peut-être le meilleur moyen d'accéder à la réalité virtuelle aujourd'hui si on veut tester, quoi.
Effectivement, celui de Sony est intéressant parce que son prix est relativement accessible et qu'effectivement, il commence à y avoir pas mal d'applications. Si effectivement, ils arrivent à le maintenir, bon, il faudra évidemment que les applications prennent en compte, par contre, la puissance de la PS5, ce qui veut dire que on aura réellement conscience d'une amélioration que sur les nouvelles applications dédiées, créées spécifiquement pour le VR sur PS5. Sinon, il n'y aura pas de différence visuelle. Et dans la mesure où jusqu'ici le PlayStation VR était un petit peu quand même en dessous de ses concurrents en termes de qualité d'affichage, c'est effectivement plutôt rassurant et ça permet d'imaginer des choses assez chouettes. Mmh. Puisqu'effectivement, ce qui limite en grande partie on va dire la beauté et l'immersion en VR, c'est la puissance de calcul, hein, beaucoup plus que réellement des problématiques d'affichage. C'est pour pouvoir afficher, parce qu'en fait on fait deux fois le calcul en VR. Je ne sais pas si nos auditeurs le savent,
oui,
mais en fait on calcule deux fois ce qu'il y a à l'image, et c'est pour ça qu'on a des choses qui sont moins belles en VR qu'on peut les avoir sur le bel écran de télévision qu'on peut avoir à la maison. Et donc jusqu'ici c'était un petit peu ça qui coinçait sur le PlayStation, c'est que finalement il était obligé de se débrouiller avec les capacités de calcul de la PS4, et donc on avait quand même quelque chose qui, bon, pour certains jeux fonctionnait très bien et était très sympa, mais restait quand même effectivement graphiquement un petit peu en dessous de ce qu'on aurait aimé avoir. Et si de nouvelles applications bénéficient réellement de la puissance de calcul de la PS5, on peut espérer avoir des choses vraiment beaucoup plus belles et du coup beaucoup plus immersives et agréables.
Ouais. Et il est possible qu'au-delà de ça, il y ait effectivement un PlayStation VR 2 qui arrive à un moment avec juste un seul
câble.
C'est même
très probable,
oui, c'est très probable. Donc, mais oui, déjà le fait de se dire, moi, mon PlayStation VR, je pourrais l'utiliser, et j'espère il sera utilisé correctement avec la prochaine PlayStation, c'est une belle surprise, on va dire. Si on attendait la rétrocompatibilité des jeux, c'était pas forcément le cas spécifiquement de la VR. Le seul truc que j'espère, c'est qu'ils vont se débarrasser de ce pavé tactile de la manette de la PlayStation 4. Ça, c'est le seul truc que je veux pas garder. En même temps, pour la rétrocompatibilité, peut-être que ça sera nécessaire. Il y aura peut-être
Je pense qu'ils seront obligés de le conserver.
Mais c'est tellement peu utilisé. Sur les quelques jeux, tu trouves une astuce, et je sais pas. Bon.
Alors en fait, nous, on est quasiment. En fait, ils nous obligent sur PS4 à l'utiliser. Mais souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que ce n'est qu'un doublon ou qu'un moyen d'accéder plus rapidement. En fait, on s'en sert comme d'un raccourci, en fait,
ouais.
parce que l'utiliser spécifiquement, c'est trop compliqué. Et puis en plus, honnêtement, c'est vrai qu'il n'est pas très très pratique. Il faut dire ce qui est. Donc, ils mettent des commandes qui seraient trop nécessaires au jeu pour être finalement assez nuisibles à l'expérience des joueurs. Mais théoriquement, à partir du moment où on sort un jeu sur PS4, on est obligé de l'utiliser, même si c'est souvent effectivement pour des choses assez gadgets.
Ah, je ne savais pas qu'ils obligeaient les gens, les développeurs à l'utiliser, c'est intéressant ça.
Ça fait partie des TRC, oui. Ouais, tout
TRC
à fait. Alors, comment expliquer ça? Microsoft comme Sony ont des fournissent une sorte de guide en fait aux développeurs pour pouvoir sortir un jeu sur leur console. Il faut respecter un certain nombre de contraintes. Alors certaines contraintes sont, on va dire, relativement mécaniques, c'est-à-dire si par exemple on arrache le pad alors qu'on est en train de jouer, il faut afficher tel message. Ce message est fourni par Sony, Microsoft, etc. Ce qui se passe si la console passe en veille, ce qui se passe si ainsi de suite. Donc on a comme ça. Alors c'est vraiment aussi épais qu'un bottin ou presque. Hein. Ouais. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont relativement logiques et évidentes, d'autres qui sont un petit peu plus, on va dire, spécifiques réellement à leur environnement, à leur console ou à des volontés justement pour mettre en valeur certains aspects de leur console, dont notamment l'utilisation de ce touchpad sur le pad PS4. Mais alors il y a des points très très techniques que moi je connais même pas et je laisse mes développeurs s'occuper de ça. Il y a des points qui sont effectivement plus évidents. Il y a une terminologie à utiliser par exemple et tout ça. Et donc quand tout jeu qui sort sur ces consoles doit respecter ces points-là, et avant même qu'ils ne vérifient la solidité et la stabilité du jeu sur leur plateforme, ils vont d'abord vérifier que le jeu remplit bien toutes ces directives. Donc, ils sont regroupés sous le terme TRC et TCR. Comme ils ne veulent pas utiliser le même terme, Microsoft et Sony, ils ont chacun le leur. Ce n'est pas une blague. Et donc, voilà, il faut avant tout être sûr que ça respecte ces données-là. Ça concerne aussi la manière dont la sauvegarde est faite, dont les temps de chargement, par exemple. Le fait que si on a un temps de chargement assez long, il faut avoir quelque chose qui s'affiche à l'écran pour montrer la progression de chargement. Tout ça, c'est des choses qui sont obligatoires pour pouvoir sortir le jeu sur les plateformes Sony.
Tu te souviens de ce dont est l'acronyme TRC?
Alors il doit y avoir requirements pour le R, mais je ne me souviens plus trop bon, du reste.
On va dire machin requirements. Non, j'arrive même pas à trouver un truc avec T. Si vous avez des idées pour ce dont TRC est l'acronyme, vous pouvez nous le dire en commentaire sur les notes de l'émission. Évidemment, il faudra que vous nous donniez toutes vos suggestions, à part celle qui est effectivement ce que veut dire TRC. Donc bon, voilà pour les quelques informations qu'on a eues sur la PlayStation 5. On verra si on a d'autres détails plus croustillants avant ou après le 3, ou pendant même, mais on a déjà quelques trucs intéressants. On va continuer avec la présentation de Jedi Fallen Order, donc le jeu très attendu de Respawn Entertainment et donc de EA, qui a été présenté au Star Wars Celebration, qui est un événement, c'est Celebration qui, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est un événement qui dure quelques jours, qui a eu lieu il y a quelques jours, justement. Oui. Alors, comment dire? En fait, on a eu un trailer cinématique sans aucun élément de gameplay du jeu, un trailer qui était quand même en in-game engine, donc qui utilisait le moteur du jeu. Le jeu ressemblera a priori plus ou moins à ça. Il y a eu quelque chose d'intéressant sur la communication autour du jeu, avec des développeurs qui étaient très très insistants sur Twitter avant, sur la scène, sur le fait que c'est un jeu solo qui n'a aucun élément en ligne, qui est narratif, qui n'a pas de DLC, qui n'a pas de microtransactions. En gros, ils étaient un petit peu en train de dire c'est pas un jeu EA, hein, ne vous inquiétez pas. C'était très drôle. Alors évidemment, Respawn appartient à EA et oui, vas-y.
C'est là un peu la réaction post On Them, le dernier jeu de BioWare qui a reçu un accueil mitigé. Je pense que c'est presque un euphémisme.
Ouais. on en a beaucoup parlé aussi dans le film.
Et je pense que du coup, ils se sentent un petit peu obligés de rassurer le public par rapport à ça, en leur disant voilà, c'est le Cotter 3 que vous attendiez depuis très longtemps. En fait, c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai entendu au moment des annonces. Enfin, ce jeu solo très narratif que vous vous attendiez depuis très 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 longtemps va arriver, et on a essayé de prendre en compte ce que vos désirs. Maintenant, on reste à voir si ça va vraiment être le cas, dans la mesure où, comme tu le disais, on a quand même surtout vu un trailer, et finalement, moi, tant que je vois que du trailer, je suis toujours un petit peu prudente.
Ouais. Et ben, à vrai dire, moi, je peux m'enthousiasmer pour un trailer, mais je sais pas si ça s'est entendu dans ma voix jusqu'à maintenant, mais je suis resté un petit peu tiède quand même par rapport à cette présentation, parce que, bon, d'une part, ils ont quand même allongé le truc sur une heure, alors qu'ils avaient une minute et demie de trailer, et ils ont pas dit grand chose. Ils ont présenté donc le héros qui s'appelle Cal, qui est, comme on le savait, un padawan de l'ordre des Jedi, qui a été décimé par, pas au sens d'origine de décimé, il y a des gens qui s'énervent maintenant, des gens qui ont appris deux mots de latin et qui disent ah mais non, décimé ça veut dire tuer 10% d'un groupe, ça veut pas dire les détruire complètement, ok d'accord, mais bon, donc l'ordre des Jedi qui a été décimé par Dark Vador à la fin de l'épisode 3, c'est ça?
Oui.
Et donc, on est l'un des survivants qui doit rester caché, qui se joint à un groupe d'autres survivants, enfin de bandits ou on ne sait pas trop. Et je ne sais pas pourquoi, c'était tellement... ça ne m'a pas excité, cette bande-annonce. Je vais dire un truc qui peut paraître bizarre, mais c'était tellement générique. C'était exactement ce qu'on attendait, exactement de la manière dont on attendait, avec aucune surprise. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas du genre à m'offusquer du fait que quelque chose soit générique. Là, l'une de mes séries de jeux préférées, c'est Uncharted, qui est quand même hyper formulaïque avec un héros qui est genre Monsieur Tout le Monde, Nathan Drake. Et pourtant, dans ce Jedi Fallen Order, ça m'a complètement laissé sur ma faim, et ça m'a fait... En fait, ça m'a pas fait bouger le sourcil, ça m'a pas fait battre le cœur, ça m'a rien fait du tout. Alors, évidemment, on n'a rien vu du gameplay, et ce qu'ils promettent, c'est-à-dire un combat corps à corps avec sabre laser hyper dynamique, peut être intéressant. Mais là, sur la présentation, vraiment, moi, j'attendais d'être hyper excité, et c'est tombé à plat pour moi. Donc...
En fait, je pense que le défaut de cette annonce et du moment de cette annonce surtout, c'est que ça fait quand même quelques années maintenant, depuis un certain rachat, que on mange du Star Wars matin, midi et soir, et que je pense qu'hélas, les différents niveaux de qualité des épisodes sortis, sans rentrer trop dans les détails, ont un petit peu blasé le public, avec en plus les spin-offs divers, certains qui sont annoncés, d'autres qui sont déjà sortis. Le problème, c'est qu'effectivement, la licence, ils l'ont un petit peu trop délayée, peut-être, au point que on en devient un peu blasé. Et qu'une annonce d'un jeu de ce genre qui serait arrivé il y a ne serait-ce que 5 ans aurait, je pense, été accueillie avec ferveur et joie. Autant le fait qu'elle arrive aujourd'hui un peu noyé dans tout cet univers Star Wars qui a été vraiment exploité, surexploité, où on reprend le moindre, tout ce qui peut être un petit peu explicité, délayé dans la licence telle qu'elle a été présentée jusqu'ici, est fait et je crois qu'on en voit trop, en fait. Ce qui est dommage aussi, ça c'est vraiment juste mon point de vue, parce que je suis une très très grosse fan des KOTOR 1 et 2, c'est que ils avaient eu l'intelligence à l'époque de KOTOR de situer ça pas du tout à la période des films Star Wars, et ça avait l'intérêt de leur laisser une assez grande latitude et liberté créative dans ce qu'ils pouvaient raconter. Toute l'histoire de Revan et ainsi de suite se positionnait bien avant tout ce qui se passait effectivement dans les films, ce qui fait que ils avaient vraiment, je crois, une capacité créative qui leur a permis d'inventer des nouveaux personnages extrêmement variés, puissants, intéressants et ainsi de suite. Là, en fait, moi, ce que je crains en situant cet épisode à ce moment-là, c'est qu'ils vont devoir finalement respecter le canon un peu trop peut-être, et que alors oui, on va pouvoir avoir des caméos de certains personnages bien connus et issus des films. Mais finalement, est-ce que ça ne va pas brider un peu trop l'histoire qu'on va pouvoir expérimenter dans ce jeu ? Moi, c'est un petit peu ce que j'ai regretté. Et dès les premières annonces sur ce jeu, je me suis dit, mais pourquoi il a fallu qu'ils aillent se coller ça à ce moment-là ? Ça aurait été tellement plus sympa, finalement, de prendre une autre période. On sait que l'univers Star Wars est quand même très, très, très étendu. À une période qui est un peu moins documentée, où finalement, ils auraient pu beaucoup plus s'amuser et proposer du coup aux joueurs une expérience peut-être un peu plus surprenante et un peu moins cliché que celle qu'on risque d'avoir, même si bien sûr à ce stade, n'ayant pas testé le jeu, ce ne sont que des suppositions.
Ouais, c'est vrai que, alors tout ce que tu dis est bien sûr tout à fait cohérent. Pour ma part, pour mon cas, j'étais assez excité de cette idée justement de me plonger dans une partie de la chronologie des films qu'on n'a pas tellement explorée. Je suis curieux de voir comment se passe la vie des quelques Jedi qui ont survécu. C'est un truc qui, moi, pourrait m'intéresser. Et d'ailleurs, personnellement, je ne suis pas tellement typique du fan de Star Wars parce que je n'ai pas joué au KOTOR. Donc déjà, je crois qu'on va me jeter l'opprobre. et en plus, je n'ai pas de révérence
particulière. Il n'est jamais
trop tard.
Hein. Il n'est jamais trop tard.
C'est pas faux, c'est pas faux. mais j'ai pas de révérence particulière pour la série, ni pour la trilogie originelle dont je trouve qu'elle a relativement mal vieilli. Arrêtez de me jeter des tomates, je suis désolé. Et il y a beaucoup de choses. Enfin, j'adorais quand j'étais petit, mais je trouve que bon, filmiquement, les choses ont évolué. Et puis la nouvelle trilogie, je vais passer sans trop commenter celle intermédiaire, la prélogie, parce que je vais me faire des ennemis parmi les plus jeunes d'entre nous avec on grandit avec. mais celle d'aujourd'hui, je la trouve, enfin les deux épisodes qu'on a vus, je les ai trouvés justement hyper intéressants. Et cette irrévérence qu'ils ont avec le passé et le fait de justement de vouloir faire leur propre truc, je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc moi, j'aurais été complètement le client de ce nouveau jeu, parce que je suis pas fatigué de Star Wars, même si bon, il y en a que j'aime plus ou moins parmi les nouveaux, et c'est vrai qu'on en a eu beaucoup, mais je suis toujours prêt à en prendre. Et pourtant, en fait, au final, c'est presque pire. Et malgré ça, cette annonce et ce trailer m'ont laissé un petit peu de marbre. Donc, bon, on verra. J'imagine qu'ils ont gardé le gameplay pour l'E3 et puis le jeu sera disponible dès cette année. Il va sortir genre 15 jours avant le film, l'épisode 9. Donc, on va en bouffer, effectivement.
Oui.
Mais ouais, donc en fait, même ceux qui sont pas hyper contents d'exploitation de Star Wars aujourd'hui, dont j'ai l'impression que tu fais partie, sont pas,
ça s'est vu.
Ont pas accroché, et ceux qui sont clients comme moi n'ont pas accroché non plus. Donc bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont apprécié le trailer quand même, mais bon, ils peuvent rattraper le coup encore, on a le temps.
Oui, et puis il faut effectivement garder en tête que ce n'est qu'un trailer,
ouais,
et que c'est souvent quand même toutes ces vidéos-là, des effets de manche qui, alors parfois effectivement tombent à plat, là manifestement c'est le cas, mais ce qu'on attend réellement, c'est de voir du gameplay, c'est de voir, de voir ce qu'on va vraiment pouvoir faire dans ce jeu, et je pense que c'est ça qui pourra ou rassurer et gagner définitivement le public, ou au contraire le perdre définitivement. Bon, ça
c'est vrai, oui.
On verra. Mais ils ont encore, le fait que justement on n'ait pas vu de gameplay, finalement laisse une porte ouverte à une très bonne surprise, ce qu'on espère tous en tant que joueurs, je pense.
C'est marrant de voir Respawn, qui avec Apex Legends avait tellement bien géré sa communication, qui là, j'ai l'impression, a fait un petit peu un coup d'épée dans l'eau, mais un coup de sabre laser dans l'eau.
Ah oui.
Bon, avançons avec un autre sujet un petit peu controversé. Là, on va passer aux news un petit peu plus rapide, mais je voulais quand même parler un petit peu de Sekiro, qui est bien sûr un jeu de From Software. On en a déjà parlé, tout le monde connaît Sekiro. Hein. Évidemment, jeu très difficile. Et il y a eu un débat assez intéressant qui a fait rage, c'était peut-être uniquement sur Twitter, ces deux dernières semaines, sur la question de la difficulté. Et je me suis dit que ça serait intéressant à aborder, bah justement, puisqu'on a une développeuse avec nous, mais en général, en tant que joueur, c'est un sujet dont on peut débattre. donc de la difficulté dans Sekiro, et certains, en fait, c'est le débat est venu d'un journaliste, je me demande si c'était un journaliste de Polygon, je ne sais plus, qui a expliqué qu'il avait joué à Sekiro avec un cheat sur PC qui ralentissait le jeu. Et je crois que ça ralentissait à 120-150%, quelque chose comme ça. Et qu'il avait réussi à battre des boss dans le jeu, et qui se disait, c'était cool de pouvoir jouer à ce jeu auquel j'arrive pas à jouer autrement. Et il y a des gens un petit peu énervés qui sont arrivés de l'autre côté en disant, avec un tweet qui est devenu un mème, on m'a dit que le mot existait en français, sans doute adoubé par l'Académie française, donc un mème qui était un truc du genre, tu n'as rien gagné, tu n'as pas sacrifié quoi que ce soit, et donc tu n'as pas grandi, tu n'as pas su ce que voulait offrir le jeu, un truc hyper grandiloquent, un petit peu ridicule. Mais ça a posé la question. Il y a des gens qui ont dit qu'il faudrait qu'il y ait des modes faciles dans tous les jeux. Ça s'est mélangé en même temps avec une question d'accessibilité pour les personnes handicapées qui n'arrivent pas forcément à jouer à des jeux trop difficiles, qui est venu donc se mêler à cette conversation sur la difficulté des jeux en général. Je crois qu'au final, les deux débats, je crois, sont un petit peu séparés, et en discutant dans mon émission...
Oui, pour moi, c'est deux choses différentes.
Ouais. En discutant dans mon émission anglophone, je me suis rendu compte que d'ailleurs, il y avait plein de gens qui avaient réussi à finir des jeux From Software avec les contrôleurs les plus ridicules de la Terre, comme des guitares, des tapis de Dance Revolution, tout ça. Donc je crois qu'effectivement, à partir du moment où on peut connecter les manettes prévues pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, je crois qu'on peut jouer à ces jeux. Donc c'est presque un autre débat. Évidemment, il faut faire attention à ça, comme il y a une très belle série de Game Maker's Toolkit, Mark Brown, qui parle de la manière dont développer les jeux avec l'accessibilité à la base de la conception du développement, qui est hyper intéressante. Mais mettons ça de côté peut-être un petit peu pour le moment, et pour parler de la difficulté, il y a certains qui disaient il faudrait des modes faciles pour tous les jeux, ça n'enlève rien aux gens qui veulent faire les jeux avec la plus grande difficulté, mais ça permet aux gens qui ne veulent pas d'apprécier le jeu quand même. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent oui, mais si l'intention du designer, de l'auteur, est de faire un jeu qui va être difficile, mais justement parce que le but n'est jamais de ne pas réussir à surmonter la difficulté, mais qui va t'imposer une certaine discipline, un certain apprentissage pour surmonter cette difficulté, c'est quand même dommage de l'idée théorique de leur imposer de mettre aussi un mode facile pour prendre des raccourcis, quoi. Donc,
alors,
la question posée
choses,
comme ça,
ouais.
Quel est ton avis sur la chose ?
Il y a plusieurs choses. Alors, effectivement, ralentir, faire un cheat le jeu à 150%, c'est dégueulasse. dans le sens où un mode facile qui a été conçu par les développeurs et qui a été bien fait, pourquoi pas ? Mais là vraiment c'est vraiment une des pires, pour moi une des pires manières de gâcher l'expérience de jeu, parce que ça n'a pas été fait pour, ça n'a pas été pensé pour, et le résultat doit être assez finalement assez vilain à plein de niveaux. Mais bon, ça c'est vraiment quelque chose à part. Je pense que ça dépend vraiment du type de jeu, en fait. Que un jeu comme Witcher ou comme les jeux comme Assassin's Creed par exemple propose des modes faciles pour permettre aux joueurs qui ont envie d'expérimenter l'histoire, donc des jeux qui sont souvent très narratifs ou un petit peu promenade, etc., et dont le cœur en fait du jeu n'est pas tourné autour d'un gameplay très exigeant, ça me paraît très très cohérent. Nous on le fait aussi. Je sais que Vampire, le jeu de Dontnod, a sorti un mode de jeu avec quasiment pas de combat, justement pour permettre aux gens qui ont envie, eux, juste de découvrir l'histoire, qui est assez, par exemple dans le cas de Vampire, qui est vraiment au cœur du jeu, plus que les combats, ça paraît du coup relativement cohérent. C'est proposé par les développeurs, c'est un mode spécifique, etc. C'est super. Maintenant, dans le cas effectivement des jeux de From Software qui ont développé un gameplay très très particulier où la difficulté est au cœur de l'expérience, c'est plus discutable. D'autant qu'honnêtement, les histoires des jeux de From Software sont rarement si fascinantes que ça. C'est quand même justement vraiment à travers le gameplay que se développe toute l'expérience de jeu, avec ce côté très punitif.
Sekiro étant peut-être une exception au niveau de la narration,
oui,
mais gardant
c'est vrai,
bien
il est
sûr
narratif. Mais ça reste
mais
quand
gardant
même
le côté punitif, et ouais.
je pense que c'est effectivement à travers un apprentissage à la dure qu'on progresse dans ces jeux-là. Alors, je ne vous cacherai pas que ce n'est pas forcément mes jeux préférés personnellement, mais je comprends complètement la mécanique derrière, je comprends complètement la démarche des développeurs, et c'est vrai que je trouve que si eux n'ont pas voulu proposer ces modes faciles, et ben c'est leur choix en fait. Et proposer un mode promenade dans Sekiro, est-ce bien raisonnable quoi, et puis est-ce bien intéressant. Si eux n'ont pas voulu le faire, c'est peut-être parce que le cœur de leur jeu n'était pas là-dedans. On n'impose pas à un jeu de danse de proposer aussi du shoot parce que c'est un jeu de danse. Bah, ça revient un petit peu à la même chose en fait. C'est un peu trahir le cœur de l'expérience de jeu. Quand effectivement on parle de jeu plus aventure, bon là pourquoi pas de problème, et effectivement ça peut complètement avoir du sens. Maintenant il y a encore un autre point qui me fait parfois un peu sourire parce que ça fait tellement longtemps que je suis dans le jeu vidéo que j'ai un peu l'habitude, mais il y a depuis, on va dire, une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, une forme d'élitisme des gamers, et vraiment d'une frange en fait assez infime par rapport au nombre de joueurs mondiaux, hein, parce que on sait maintenant qu'il y a énormément de joueurs, y compris des joueurs que les gamers regardent de haut parce qu'ils jouent plutôt sur téléphone ou ils jouent plutôt à des petits jeux, on va dire, qui demandent pas spécialement une technique ou un apprentissage justement particulier. Et cet élitisme, je trouve, se cristallise vraiment beaucoup dans les jeux dits difficiles, dont par exemple les jeux de From Software, parce que c'est un petit peu le dernier bastion où les gamers sont sûrs d'être seuls en fait, et où les moins gamers, les moins hardcore surtout, sont finalement, on va dire, interdits, parce que simplement ils n'ont pas la technique pour y arriver. Et ça, du coup, tout le battage qu'il y a pu y avoir autour de cette histoire de difficulté ne me surprend pas tellement, parce qu'elle va vraiment dans le sens de cette espèce de petite chapelle, on va dire, où se retrouvent les hardcore gamers, dans l'idée que eux sont les garants de ce qu'est le vrai jeu. Et bon, encore une fois, ça me fait sourire, parce qu'au final, c'est quelque chose qui est assez récent, historiquement, le vrai jeu c'est Pong quelque part, et si on va dans ce sens là ça a pas vraiment de sens en réalité. Donc qu'il y ait des joueurs plus hardcore qui apprécient les difficultés, c'est super. Qu'il y ait des joueurs qui jouent qu'à Candy Crush, c'est super aussi, il en faut. Et après, au milieu de tout ça, il y a une infinité de joueurs différents, de profils différents, avec effectivement des joueurs en situation de handicap, mais des joueurs aussi très jeunes, des joueurs au contraire plus âgés, qui n'attendent pas forcément la même chose, la même expérience de jeu. Et c'est justement, moi je trouve, dans la variété des expériences que le jeu propose, que le média grandit en fait. C'est comme, enfin, le cinéma n'a pas fait que du cinéma muet qui racontait des histoires de train. On a vachement diversifié évidemment l'offre de narrative en termes de cinéma, et de la même manière le jeu vidéo propose plein d'expériences différentes, du jeu de foot encore une fois au petit puzzle game, et il n'y a pas de honte à préférer l'un ou l'autre, il en faut encore une fois pour tous les goûts, et c'est très bien. Et qu'il y ait des jeux difficiles, moi je suis pour, je suis effectivement même pour le fait que à partir du moment où c'est une décision des développeurs, évidemment, il n'y ait pas forcément d'ajout de mode facile si selon eux ça n'a pas de sens par rapport à ce qu'ils veulent proposer comme expérience de jeu. Maintenant, il ne faut pas que ce discours-là serve à alimenter une forme de snobisme, parce que c'est jamais rien d'autre que ça, d'une partie des gamers. Je pense qu'il faut qu'eux-mêmes se réjouissent du fait que plein de gens jouent, parce que c'est ce qui rendra le jeu vidéo finalement plus populaire aussi. Et peut-être enfin respecté par une frange de la population qui regardait le jeu vidéo un petit peu comme un truc de cinglé ou comme un truc pour enfants.
Pardon, vas-y, finis.
Non, mais c'est vraiment, moi, pour moi, je suis toujours contente quand je vois plus de diversité arriver, quand je vois des genres de jeux qui n'existaient pas apparaître, quand je vois des petits jeux indés super malins arriver et changer réellement la donne et la manière d'appréhender le jeu vidéo, quand je vois des jeux ultra arty, super bizarres et barrés, et à côté de ça, effectivement, des gros blockbusters énormes, parce que c'est bon signe, en fait. Ouais. C'est signe de bonne santé pour le jeu vidéo, c'est signe que le jeu vidéo mûrit aussi, et permet, par cette pluralité de types d'expériences, de toucher plein de gens, et c'est génial. Voilà.
Bon, je crois que tu as résumé à peu près tout ce que j'aurais voulu dire, donc je ne vais pas bêtement répéter ce que tu as dit, je suis d'accord avec 99%. Il y a un seul élément que j'ajouterais, juste pour mettre un tout petit pavé dans ma propre mare, parce que moi, au final, j'étais vraiment... la manière dont j'approchais la chose, c'était non, on n'a pas besoin, parce que justement, ça pervertit l'intention du développeur, et il faut être très prudent avec cette idée, parce que, comme tu le dis, il y a des gens... qui utilisent cet argument pour dire des choses qui, à mon avis, n'ont vraiment pas de sens. Mais je discutais donc avec mon amie Olivia sur mon émission anglophone et en parlant avec elle, qui, elle, disait qu'elle n'était pas contre, idéalement, quand c'est possible, l'idée d'ajouter des modes faciles dans les jeux, je me suis rendu compte que l'un des jeux les plus difficiles de... C'était l'année dernière. Oui, Céleste, c'était l'année dernière. Donc, l'un des jeux les plus difficiles de l'année dernière, Céleste, avait un mode facile et qu'effectivement, moi, ça ne m'a dérangé en rien. Je l'ai fait en difficile, enfin en normal. J'ai pas du tout été vers le mode facile. Et c'est un jeu qui est pas spécialement narratif, même si oui, il y a une histoire et elle est importante. Mais le cœur du jeu, c'est quand même ces éléments de plateforme difficile. Et ça n'a rien enlevé à mon expérience le fait qu'il y ait à côté de ça un mode facile. Maintenant. Je pense que ça ne change pas mon point de vue en général sur la chose, mais on va dire que mon point de vue étant que je pense que si les développeurs veulent faire des jeux difficiles, et ben évidemment, on ne peut pas, donc c'est une question purement rhétorique, mais il ne faut pas leur imposer l'idée d'ajouter un mode facile. Je crois qu'on n'est pas dans quelque chose de cohérent, mais ça met quand même une petite pause à mon argument de me dire... Ah ouais, mais pour Céleste, ça ne m'a pas du tout gêné et ça a permis à d'autres d'apprécier le jeu et de le parcourir. Mais évidemment, c'était un choix du développeur et je crois que c'est là-dedans le point clé. Mais ouais, je voulais mentionner quand
même. Moi, je pense vraiment que c'est... quand les développeurs eux-mêmes se disent on pourrait proposer cette expérience-là, parce qu'un mode facile, c'est en réalité, de manière générale, les différents niveaux de difficulté se balancent à plein de niveaux différents. C'est-à-dire qu'effectivement, ralentir la vitesse du jeu, c'est probablement un des pires moyens de rendre un jeu plus facile, mais ça peut être effectivement, la capacité d'attaque des ennemis s'il y en a, la vitesse de déplacement de certaines créatures ou du joueur ou des autres personnages qui peuvent intervenir et ainsi de suite. Il y a vraiment énormément de choses différentes qu'on peut moduler. Souvent on agit sur des dizaines et des dizaines de paramètres quand on crée les différents modes de difficulté, que ce soit des modes plus difficiles ou évidemment des modes plus faciles, voire effectivement dans certains cas des modes touristes comme ce qu'on a pu voir dans certains Assassin's Creed, où là carrément on supprime tous les combats et c'est juste une balade et pourquoi pas, enfin ça peut avoir complètement son sens dans certains types de jeux. Donc je pense que c'est en ça que pour moi c'est une décision qui doit venir des développeurs, parce que simplement se dire pourquoi est-ce qu'ils font pas un mode facile, etc. Parfois, ça n'a pas forcément de sens, et aussi ça demande vraiment un travail particulier pour rendre les choses tout aussi agréables et tout aussi intéressantes à jouer, quel que soit le mode de difficulté.
Oui, il faut pas en fait pervertir l'expérience du jeu en le rendant facile, et c'est pour ça qu'il est important...
Facile
pour
ou chiant, en fait.
C'est ça.
Parce qu'en fait, le risque de faire un mode facile mal fait, c'est que l'expérience devienne complètement inintéressante et ennuyeuse. Donc, je pense que pour les développeurs, c'est justement ce juste milieu-là qui doit être trouvé et qui demande un travail particulier. Et si pour eux, ça n'a pas de sens, je respecte ça, en fait.
Bon, merci d'avoir partagé ton avis avec nous sur ce sujet ô combien polémique, comme je le disais tout à l'heure. On va conclure avec quelques petites news un petit peu plus rapides. D'abord, Microsoft et Sony. Microsoft a confirmé l'arrivée de sa Xbox One SAD, ou Xbox One S All Digital Edition. Bien sûr, une idée cohérente, c'est une Xbox One S sans lecteur de Blu-ray. Donc, elle coûte moins cher, elle coûte 229€. Je crois que le Blu-ray ne coûte pas tellement, et donc c'est plus un moyen de positionner au niveau ciblage du prix que de réduire le coût de la console, mais quoi qu'il en soit, elle arrivera pour 229 € début mai, c'est le 7 mai, je crois. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est livrée avec trois jeux. Je crois que c'est Forza, Minecraft et Sea of Thieves, si je ne m'abuse. Ils ont aussi annoncé qu'il allait y avoir un Xbox Pass, comment il s'appelle, Ultimate. Donc pour 13 €, ça combine le Xbox Live Gold et le Game Pass. Donc un tout en un pour avoir accès à toute la librairie Game Pass. Donc ça, c'est assez cool. Sony a enfin lancé le changement de pseudo sur PSN. Il y a, c'est, bon, c'est fait correctement, mais il y a des jeux pour lesquels ça peut avoir des conséquences négatives, voire dramatiques, mais la liste des jeux qui peuvent être affectés est quand même très très faible. Je crois qu'ils se, mettent un petit peu de sécurité en disant « n'oubliez pas que ça peut avoir causer des problèmes », mais dans le doute, il vaut peut-être mieux attendre quelques semaines pour voir si des gens ont eu des gros problèmes avec. Apple serait en train de dépenser, selon la rumeur, plus de 500 millions de dollars dans les investissements pour les jeux Apple Arcade. C'est intéressant parce que moi, mon argument dans la discussion sur le service Apple Arcade dont on parlait les semaines précédentes était que si c'était un moyen d'envoyer de l'argent à des joueurs qui s'abonneraient peut-être à un tel service, mais pas forcément qui n'achèteraient pas forcément des jeux les uns après les autres, et si c'était un moyen pour Apple d'envoyer de l'argent aux développeurs, eh ben c'était pas mal parce que ça pouvait créer un écosystème de jeux de qualité sur iOS. Et donc là, 500 millions de dollars, bon, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même beaucoup d'argent pour les développeurs qui vont avoir ces sommes. Les investissements vont de quelques milliers à plusieurs dizaines ou même centaines de milliers de dollars. Donc, c'est, je pense, une bonne chose. Sur ces trois news, est-ce que tu as des avis ou des opinions?
Honnêtement, pas énormément. Alors moi, je suis pas tellement une joueuse sur téléphone, mais
je crois que la plupart des auditeurs seront dans ce cas aussi. Hein, c'est mon cas également. Mais
maintenant, c'est et puis sinon la petite guéguerre Microsoft Sony qui est un peu habituelle. Alors Microsoft, ça fait quand même des années qu'ils essayent de rattraper les débuts très 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 difficiles de leur génération actuelle. Autant ils avaient été devant Sony sur la génération précédente, autant là ils sont loin derrière, et je pense que leur plus gros problème vient pas tellement des machines, et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre, même si ça ils changent beaucoup hein, leur mentalité, d'ailleurs comme Sony sur la PS3, c'est assez amusant hein, ils passent par les mêmes épisodes, ouais. Ouais, c'est vraiment ça, c'est assez amusant. En fait, sur la fin de la génération précédente, ils étaient tellement sûrs de leur succès qu'ils ne se sont pas du tout assurés des exclusivités, qu'ils ont finalement très peu travaillé avec des développeurs. Et ce qui fait qu'évidemment, quand Sony est arrivé avec par contre beaucoup d'exclus de super jeux au début du lancement de la console, ils ont mieux vendu leur console que Microsoft. Et c'est toujours quelque chose derrière lequel Microsoft court depuis sur cette génération-là, sur la difficulté à reprendre du marché par rapport à Sony. Et c'est vrai que les annonces de variantes de plateformes, etc., je les vois, ils en ont quand même fait un certain nombre. C'est bien, et sans doute que ça leur rapporte une nouvelle clientèle, mais je pense que tant qu'ils n'auront pas réussi à s'assurer, comme ils l'avaient fait précédemment, des belles exclus, des super beaux jeux sur et uniquement sur leur plateforme, ils auront toujours du mal à rattraper le succès de Sony.
Oh bah là, je crois qu'ils ont compris. Hein. Ils sont un petit peu, ils sont prêts. Ils ont racheté tellement de studios.
Alors voilà, ce qui explique aussi pourquoi ils ont racheté plein de studios récemment, pour, je pense, pouvoir s'assurer par la suite. Ça sera sans doute plutôt sur la génération suivante d'ailleurs, de reprendre un petit peu le devant de la scène et de pouvoir concurrencer Sony de manière plus efficace. Oui.
Bah, sur cette console spécifiquement, je crois qu'on est sur effectivement un découpage marketing qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui n'achètent plus de jeux en disque. Et d'ailleurs, on peut a priori transformer les jeux qu'on a achetés en disque, en code à télécharger. Bon, ensuite, ça pose d'autres problèmes, les questions d'achat en numérique, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais Mais oui, c'est quelque chose qui est, à mon avis, pourquoi pas offrir cette option aussi. Est-ce que tu as un avis, je te pose la question directement, sur cette question de Apple Arcade et de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui approchent l'idée d'un abonnement aux jeux vidéo de manière assez circonspecte, parce que ce soit pour le Game Pass, pour d'autres, on se dit, mais est-ce que ça ne veut pas dire combien sont payés les développeurs? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire de l'argent? Est-ce que en ne vendant pas leur jeu ensuite à côté, si ces systèmes deviennent omniprésents, est-ce que ça ne va pas finalement leur ramener moins d'argent? Qu'est-ce que tu as un... T'as une, alors, tu peux estimer la chose déjà?
Alors, estimer, alors à l'échelle d'Apple, j'aurais du mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, quand un jeu est vendu sur console, et c'est la même, d'ailleurs accessoirement c'est la même chose pour Steam et probablement pour l'Epic Store, même si pour l'instant je ne suis pas trop penchée sur cette question-là, les constructeurs prennent une part du prix du jeu qui est assez importante. Alors, s'il y a support physique sur console, ils prennent une part encore plus importante parce que la fabrication passe forcément par eux. Et évidemment, ils en profitent pour facturer ce service relativement cher. Il faut savoir que donc la soumission, c'est-à-dire quand on renvoie un jeu pour qu'il soit validé et accepté sur console, est aussi un service payant, évidemment. Et en plus, évidemment, ils prennent un pourcentage sur le prix de vente du jeu, qui est autour de 30%. Steam prend aussi dans les 30% à peu près sur le prix des ventes des jeux qui sont distribués par leur plateforme. Donc, de toute façon, ils prennent des sous, quoi qu'il arrive. Dans le cadre des consoliers, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'ils rentabilisent les consoles, puisque souvent les consoles sont vendues à perte. Pour ce qui est de ces services d'abonnement, normalement, il y a une négociation qui est faite entre les consoliers et les développeurs, voire même souvent plutôt les éditeurs. Il y a souvent un intermédiaire en plus dans l'équation qui effectivement négocie le fait d'ajouter le jeu à ses packages distribués à travers les abonnements en échange d'une rémunération. En fait, ça va sans doute, effectivement, surtout si ça se généralise, changer un petit peu la répartition des points d'influence en fait entre développeurs, éditeurs et consoliers ou assimilés. Et probablement, en fait, c'est probablement pour les éditeurs que ça va devenir de plus en plus difficile. S'il y en a qui nous écoutent, ils vont peut-être grincer des dents. Mais finalement, ce qui se passe avec Netflix, par exemple, est un assez bon exemple. On peut le transposer assez facilement au monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que les anciennes sociétés de production sont en train de se faire un petit peu remplacer par Netflix, qui va directement acheter en l'occurrence à des réalisateurs des films.
Ou à des sociétés de production directement.
Et effectivement financer les films, ce qui fait que ça fait sauter les intermédiaires.
Les studios, oui, c'est de la désintermédiation comme on l'a vu dans tellement d'autres industries finalement. Oui.
Exactement, et il y a des chances que ces méthodes d'abonnement proposées par les différentes plateformes, quelles qu'elles soient, finissent effectivement par affaiblir les éditeurs qui auront un rôle beaucoup moins important et renforcer évidemment les plateformes de distribution. Mais finalement, pour les développeurs, où on est quand même toujours un petit peu au bout de la chaîne et on est un peu ceux qui touchent le moins d'argent dans l'histoire, ça ne devrait pas changer grand-chose. Et potentiellement même arriver à des partenariats qui pourraient être intéressants avec du financement direct donc, par les plateformes. Ça pourrait effectivement permettre à certains développeurs qui étaient des indés qui galéraient un petit peu peut-être d'être finalement mieux mis en avant en trouvant du soutien auprès de ce genre de plateforme.
Donc soit avec des deals temporaires ou carrément l'achat d'un développement et puis ils vous disent bon ben voilà, on vous donne tant et c'est pas on vous donne un petit peu maintenant et puis après on verra si le jeu se vend ou pas, vous aurez un petit peu plus ou un pourcentage ou machin. C'est plus comme ça que ça se passe sur Netflix, et on vous donne tant, et on a soit l'exclusivité temporaire, soit vous produisez carrément pour nous et la série nous appartient, soit machin, mais les relations sont plus claires, quoi, en tout cas. C'est l'espoir qu'on peut avoir.
On peut espérer ça, ouais. On peut espérer ça.
Bon, continuons dans les petites news. On a Capcom qui a annoncé son Home Arcade. En fait, c'est pas vraiment une console, c'est une manette d'arcade géante avec deux manettes, en fait. C'est comme un... Comment décrire ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Les manettes d'arcade, en fait, c'est comme une partie de la borne d'arcade où il y a les manettes, sauf que là, c'est un truc qui doit faire un demi-mètre de long avec, effectivement, deux manettes, les six boutons, etc. Et c'est écrit, ça a la forme du mot, du logo Capcom. Donc, franchement, c'est assez moche. Il y a 16 jeux et ça se branche sur une télé comme n'importe quelle mini console. Et franchement, bon, il y a 16 jeux, mais les jeux, c'est pas non plus les plus fous de l'histoire. Et ça coûte 230€, bien sûr, parce que les manettes sont de grande qualité, mais je suis pas certain qu'il y ait énormément de gens qui se jettent là-dessus. GameStop fait une chose intéressante, et n'oublions pas que GameStop est la société à laquelle appartient Micromania, donc ça nous concernera peut-être un jour en France aussi. Ils font une opération, comment s'appelle leur opération ? C'est Sure to Love ou Guaranteed to Love ou un truc comme ça. Bref, pour certains jeux, le premier sera Days Gone, qui sort dans quelques jours. Vous pouvez l'acheter chez eux et si vous ne l'aimez pas, au bout de deux jours, dans les deux jours après l'achat, vous pouvez aller le rendre et vous avez un bon d'achat du montant complet du jeu dans la boutique, sans question, ils ne vous posent même pas de questions, c'est dans les deux jours, vous pouvez l'échanger. Alors évidemment, en théorie, vous pouvez l'acheter et y jouer dans les deux jours et puis le rendre. Je pense qu'il y aura assez peu de gens qui feront ça. Et puis de toute façon, l'argent reste dans GameStop parce que c'est un bon d'achat. Mais c'est une bonne opération, je trouve. C'est le 30e anniversaire de la Game Boy, comme je le disais. Il y a plein de gens qui regardent en arrière et voient l'importance de cette première console qui était vraiment un événement, de cette première console portable qui était un événement de société, un monument du jeu vidéo. Et Jeff Keighley a annoncé que, ou en tout cas il a été annoncé qu'il allait présenter un nouveau show pour l'ouverture de la Gamescom. J'ai trouvé ça hyper intéressant, ça sera le 19 août et je crois que ça va être un moyen de donner à différents éditeurs et différents développeurs une occasion de présenter des choses et de présenter des choses au moment de la Gamescom, là où avant, c'était un petit peu plus difficile parce que la Gamescom, c'est tellement plus tard dans l'année que c'est généralement l'endroit où on joue aux jeux qui ont été annoncés à l'E3. Là, peut-être qu'il y aura l'occasion, grâce à cet événement, d'avoir de nouvelles annonces. J'ai trouvé ça. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Bien sûr, Jeff Keighley est l'instigateur et l'animateur des Game Awards en fin d'année, en décembre, qui sont devenus une autre milestone de l'année en jeux vidéo. Voilà, quatre petites news. Là encore, je te demande s'il y a quelque chose qui t'intrigue, qui t'intéresse dans ces annonces.
Oh ben, sur la Gamescom, c'est effectivement, dans la mesure où l'E3 est en perte de vitesse, il était assez logique qu'il y ait, on va dire, une sorte de renforcement autour de cet événement-là. Après, j'attends un peu de voir comment ça va se passer du coup, parce que ça sera la première année où ça arrivera. Nous, c'est un événement où on était régulièrement et où effectivement, on montrait un peu moins de choses. En plus, bon, c'est mi-août, comme beaucoup de Français au mois d'août. Bon, nous, on bosse toujours parce que souvent les sorties sont en septembre et donc du coup, c'est un peu le dernier rush. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le désert à cette période-là. Il se passe pas grand-chose. Donc du coup, c'est un salon qui était un petit peu à part et un peu étrange en termes de timing surtout. Et peut-être qu'effectivement, ce nouvel événement y ajoutera un peu plus de visibilité. Et renouvellera l'intérêt pour ce salon.
J'espère, effectivement. Moi, j'adore, en fait, c'est ce que je dis souvent dans l'émission, j'adore ces moments. Et le 3, pour moi, c'est la grande fête, c'est les Jeux Olympiques, c'est l'Eurovision des gamers. Et j'adore me retrouver avec mes amis et commenter les trucs en live. Et c'est le meilleur moment. Et donc, je suis un petit peu triste que Sony n'y soit plus. Il y a d'autres qui ont annoncé qu'ils n'auraient pas de grand stream. EA, il sera, mais en marge, comme toujours. Oui. Ils n'auront pas un grand stream, etc. Et donc, je suis content de voir qu'on aura une autre occasion. Genre, maintenant, l'été va être jalonné par l'E3 avant et la Gamescom après pour ces grandes présentations de jeux vidéo. J'espère que ça sera sympa. Moi, je suis sûr que je commenterai tout ça en live. On verra. Allez, dernière petite série, les tests de Harry Potter Wizards Unite ont commencé, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, c'est le nouveau jeu de Niantic qu'ils vont lancer certainement au début de l'été. C'est le studio qui a développé Pokémon Go, donc la prochaine folie des hordes de personnes qui vont se balader dans la ville avec leur téléphone en essayant de capturer des nouvelles bestioles, ça sera pour Harry Potter. A priori, ça arrivera très bientôt. Twitch a lancé son premier jeu qui s'appelle Twitch Sings, qui est, moi je trouve, hyper marrant. C'est en fait un jeu de karaoké qui est à la fois un jeu et un outil de streaming. Ça a été développé par Harmonix. Je me demande si je vais pas faire un petit truc avec Twitch Sings, ça serait possible. Vous pourriez découvrir ma magnifique voix. Je pense que certains seraient surpris de la qualité de mon ton juste. Je mens peut-être un tout petit peu. Super Smash Bros. Ultimate a reçu sa mise à jour 3.0 avec Joker et un stage builder qui a déjà donné lieu à des stages conçus et qui ont été supprimés pour différentes raisons par Nintendo. Il y a déjà Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order qui devrait arriver le 19 juillet sur Switch. Je le mentionne parce que contrairement à ce que disait Jeanne tout à l'heure, moi je fais partie des gens qui sont complètement dans la hype des trucs dont on a trop, et donc les films de Marvel, je suis complètement dedans, et donc Marvel Ultimate Alliance, je l'attends avec un certain enthousiasme, mais en même temps ils sont tellement en train de le passer par la petite porte à chaque annonce que je me dis, je commence à me méfier un tout petit peu. Il va y avoir un tournoi pour le mode créatif de Fortnite, ce qui m'a permis d'apprendre qu'il y avait un mode créatif dans Fortnite qui a été lancé il y a quelques mois. Je ne l'avais pas du tout vu passer. Et enfin, Assassin's Creed Unity, celui qui se passe à Paris, est gratuit pendant encore quelques jours sur Uplay, de manière à encourager les gens à aller visiter Notre-Dame, qui a été modélisée de manière hyper impressionnante dans le jeu. Et d'ailleurs, Ubisoft a donné une certaine somme pour la reconstruction de la cathédrale. Et la destruction du toit et d'une partie de la cathédrale a donné lieu à un regard nouveau porté sur ces environnements numériques où a été modélisée la cathédrale, que ça soit en réalité virtuelle ou par d'autres moyens, en particulier dans Assassin's Creed Unity. Et c'est vrai que c'est assez étrange de se dire qu'on peut aller visiter la cathédrale maintenant virtuellement, alors que dans la réalité elle est en bien piètre état. D'ailleurs, ça m'a fait quelque chose parce que Assassin's Creed, bon, au-delà du fait que Notre-Dame, etc., Paris, évidemment, j'étais en état de choc au moment où ça s'est produit, mais Unity est le seul Assassin's Creed que j'ai fini, auquel j'ai beaucoup joué, et je l'ai fini, à part Assassin's Creed Odyssey, sur lequel je suis encore revenu, là, juste avant ces événements, et qui m'éblouit à chaque fois que j'y remets un pied. Mais bon, voilà, donc deux Harry Potter à Assassin's Creed pour cette dernière série de news. Encore une fois, si tu as quelque chose à ajouter, Jeanne, c'est l'occasion.
Alors juste, parce que je sais que la news concernant Notre-Dame et Assassin's Creed, il y a eu un bruit qui a couru comme quoi ils utiliseraient la modélisation réalisée dans le jeu pour pouvoir reconstruire la cathédrale. C'est complètement faux. Pour une raison qui est très simple, c'est que certes, la modélisation était effectivement très impressionnante, mais elle ne respectait pas du tout les cotes réelles de la cathédrale, le but étant de la rendre justement aussi impressionnante que possible, plutôt que de respecter au millimètre ces mesures. Heureusement, beaucoup d'entreprises, notamment une des entreprises impliquées dans les travaux de la cathédrale, avaient numérisé la charpente et les toits et la flèche et ainsi de suite, et donc on a des mesures réelles et extrêmement précises de ce qu'elle était et qui effectivement pourront servir entre autres à sa reconstruction. Voilà.
C'est d'ailleurs un sujet qui n'a plus rien à voir avec le jeu vidéo, mais les questions qui se posent aujourd'hui sont fascinantes sur la manière dont il va falloir la reconstruire, parce que est-ce qu'on la reconstruit à l'identique, mais à l'identique de quoi ? De ce qu'elle était au moment où elle a été détruite, ok, mais avant ça, elle a beaucoup évolué aussi. La flèche, par exemple, avait été ajoutée assez récemment et pourtant, elle est complètement emblématique. Enfin, ça pose plein de questions intéressantes et je crois qu'elle s'était même posée à Ubisoft pour Assassin's Creed Unity. Quelle Notre-Dame représentée, est-ce que c'est celle qu'on connaît nous aujourd'hui parce que ça nous fait plaisir, ou est-ce que c'était quelque chose de... Enfin, je crois que la question s'est posée même à eux, donc... Bref.
Oui, bien sûr, mais c'est assez normal en fait, parce que il y avait une flèche sur Notre-Dame jusqu'en 1792, flèche qui
mais
s'est
c'était pas
effondrée,
la même, non.
Mais c'était pas la même. Et effectivement, comment la représenter? Est-ce qu'il devait s'inspirer de l'actuel ou pas? Et ça avait effectivement été un certain nombre de décisions, là, de design et de direction artistique, pour essayer de rendre ce monument bien connu quand même au niveau mondial aussi crédible et impressionnant et admirable que possible.
Ouais. Et au-delà de ça, même, il y a les questions qui se posent pour tous leurs jeux, puisqu'ils ont des aspects historiques, évidemment. Et je me souviens qu'à l'époque où on parlait du mode exploration de Assassin's Creed Origin, il y avait eu un truc assez intéressant où ils expliquaient qu'ils avaient fait certains choix pour le jeu, parce que c'est un jeu de faire des choses, les choses différemment, d'une manière un petit peu pas tout à fait... En corrélation avec la réalité historique, et ils expliquaient dans le mode exploration quelle était effectivement la réalité historique, et c'est un choix qui se pose toujours, et évidemment dans le cas de Odyssey c'est le cas aussi. Enfin, on a une sorte de parc à thème de Grèce avec toutes les îles à côté les unes des autres, mais c'est intéressant ce genre de choix qui doivent être faits pour rendre le jeu, enfin faire quelque chose réaliste et pas forcément toujours le meilleur choix pour un designer de jeux vidéo. C'est un sujet intéressant. Bah écoutez, je crois que ça nous amène à la fin de cet épisode. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler. Une collection Castlevania Anniversary qui va encore permettre à Konami de faire gonfler un petit peu leur revenu cette année. Il y a la série télé Halo qui a trouvé son Master Chief. Alors c'est surprenant. Ça va être intéressant parce que Master Chief, on voit jamais son visage, mais là, ça va être un acteur, donc il aura un visage. Il y a plein de choses dont on pourrait parler. Il y a une compilation de tous les jeux Walking Dead qui arrive, Katana Zero qui est sorti, qui est pas trop mal, bref, plein de choses dont on pourrait parler, mais on va quand même s'arrêter là, c'est quand même Pâques, et puis je suis sûr que j'entends les enfants qui sont dans la maison de Johan venir taper à la porte, donc on va se quitter là. Avant ça quand même, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver le studio, et puis peut-être que ce que vous faites, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés d'aller explorer la chose?
Alors, donc on a évidemment un site web qui s'appelle spiders-games.com. Notre prochain jeu s'appelle Gridfall. C'est un RPG. Hein. Comme je le disais, on est spécialisé dans les jeux de rôle. C'est un RPG qui se passe dans un univers inspiré du XVIIe siècle, mais évidemment, pour le coup, on n'a pas prétention d'être historien, et qui est aussi très très nourri de fantasy, de magie et d'étranges, et dans lequel on explore une île qui vient d'être découverte et qui est habitée aussi, et donc on doit à la fois composer avec ses habitants, ses créatures et aussi les autres nations de ce vieux continent qui se sont installées là. Donc voilà, ça c'est pour le projet actuel qui devrait sortir normalement cette année, mais plus tard dans l'année. Et on n'a pas encore de date officielle. Et sinon, on a un Twitter qui doit être Spiders Games aussi, et une page Facebook, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On n'est pas forcément, en ce moment, on ne poste pas forcément énormément, parce qu'on est encore vraiment le nez dans le développement. Et on fait tout pour bien finir ce jeu, quand même, pour qu'il soit aussi chouette que possible. Mais justement, il y aura quand même régulièrement des nouvelles sur ce jeu-là. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous suivre sur ces différentes plateformes. Voilà.
Ça marche. Je mettrai le lien vers le compte Twitter de la boîte dans les notes de l'émission, comme je le fais toujours. Merci beaucoup, Jehan. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr. J'en perds le nom de mon site. frenchspin.fr, si vous voulez commenter ce qu'on a dit, des choses qui vous ont paru justes ou peut-être dont vous pensez qu'on n'est pas passé à côté. Bien sûr, vous pouvez le faire dans les notes de l'épisode, dans dans l'article de l'épisode spécifique. Et vous pouvez aussi retrouver sur ce site-là le rendez-vous tech où on parle de tech, de l'actu tech. Si ça vous plaît, vous pouvez aussi aller voir de ce côté-là. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode où on parlera, j'espère, de notamment Days Gone, parce que c'est un jeu qui, malgré son aspect très générique, moi me plaît parce qu'il coche toutes les cases des trucs. Enfin, me plaît, m'intrigue. On verra s'il me plaît dans 2 semaines. Ciao à tous.